Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio et le débat a déjà commencé. 0826-300-300 aujourd'hui. Avec moi pour débattre, Patricia Balme, présidente fondatrice de PBCom International. Vous êtes conseillère en communication. Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate. J'ai toujours du mal avec vos intitulés. Président du Front démocrate.
Pourtant, surtout que simple. Ça n'existe plus. Donc.
Bon, alors, vous êtes quoi
Union des démocrates et des écologistes.
Alors, la correction n'a pas été faite.
C'est pas dramatique.
Union des démocrates
et des écologistes.
Vous changez souvent, hein?
Non.
Si. Et membre du CESE.
La ligne reste toujours la même.
Alors, autre écologiste sur le plateau. Alors, c'est pas la même ligne. Il va falloir nous expliquer la différence. Sandra Regol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Et Christian de Villeneuve, journaliste éditorialiste. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, beaucoup de sujets. Sarkozy, deuxième personnalité politique préférée des Français, ce qu'il manque à la droite. Ce matin, j'entendais Christian Estrosi dire qu'il était une sorte de référence et qu'on lui demandait conseil. Donc, on en parlera. Est-ce que vous avez envie de le voir revenir? Édouard Philippe lance l'acte 2. Est-ce qu'il est l'homme clé du quinquennat? On attend vos réactions. Et puis, êtes-vous choqué par la une de Charlie Hebdo? Je vous rappelle cette une, enfin, on en reparlera dans un instant, qui représente un sexe de femme avec un ballon de foot au milieu. On va en bouffer pendant un mois. C'est la légende. Et ce sera dans quelques instants. Coup de cœur, coup de gueule. On va commencer avec Patricia, qui a un coup de cœur.
Oui, un coup de cœur. C'est pour une femme qui a été nommée meilleure chef, enfin classée meilleure chef pâtissier du monde. Elle s'appelle Jessica Preapalto.
Oui. C'est la chef du Plaza, Athénée à Paris.
Absolument. Elle est originaire de Mont-de-Marsan. Mmh. Alors je trouve qu'après Guy Savoie qui a été élu meilleure table du monde, et ben cette femme, chef pâtissier, qui, je dois dire, ne privilégie pas forcément l'esthétique, mais le goût.
Ouais, ça, c'est bien.
Je trouve que c'est un beau coup de chapeau et je suis très contente.
C'est bien, on est fiers, Cocorico. Bah
On renforce la réputation française, ça serait bien.
Bah oui. Absolument. Donc, c'est et vous aviez un coup de gueule hier que j'ai lu sur les réseaux sociaux sur le fait que la police n'ait pas diffusé le portrait robot de l'assassin, du chauffard de Lorient.
Oui.
Ça a été diffusé depuis.
Très tardivement.
Mais vous vous dites qu'il faut faire ça plus vite quand il y a un délit de fuite comme ça.
Parce qu'il y a eu un délai quand même de plus de 24 heures. Ouais. Et en plus de 24 heures, il a le temps d'aller ailleurs et de s'enfuir. Mmh. Et je n'ai pas compris pourquoi la photo qui a été diffusée par un média et qui a été floutée n'a pas été diffusée plus tôt. Voilà. Ouais. Ça aurait peut-être aidé à le retrouver plus vite. D'ailleurs, je crois qu'on ne l'a toujours pas retrouvé.
Christian, on reste dans la gastronomie, dans le patrimoine français.
Moi j'ai un coup de gueule contre Trump. Il va s'en foutre. Mais, il a dû mal digérer son, enfin, passer un mauvais séjour en France lors des cérémonies célébrant le 75e anniversaire. Du débarquement sur la plage normande, puisqu'à son retour à Washington, il n'a pas trouvé de mieux de déclencher une menace d'une nouvelle guerre commerciale, puisqu'il voudrait surtaxer les vins français, qui, il est vrai, font un carton aux États-Unis. Je crois que c'est plus 35% depuis 2-3 ans. Mais il faut dire aussi que les vins américains font un carton également en Europe.
Ouais.
Voilà, donc je trouve ça... J'ai du mal à comprendre. Et qu'est-ce qui lui a pris? C'est encore une foucade.
Oui, mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre cette comme ça.
Ça s'appelle du protectionnisme.
Oui, c'est ça.
Et Trump n'a pas caché... on peut être d'accord ou pas, moi je suis plutôt pas d'accord, mais ça s'appelle du protectionnisme. Il n'a jamais caché qu'il allait le faire. Il ne le fait pas que sur le vin. Hein.
Oui, les voitures allemandes... Mais c'est peut-être une pulsion... Trumpiste comme d'habitude, qui reviendra.
Lors des cérémonies, là, on avait l'impression qu'il y avait un certain rapprochement, une certaine réconciliation entre la France et les États-Unis. On est tout de suite.
Le chêne qu'ils avaient planté est mort.
Voilà l'écologiste
en vous qui pleure cet arbre. Mais c'est vrai que c'était
plutôt la tentative de l'administration de Trump de faire taire un rapport scientifique pas pas folichon non plus, hein, qui annonçait juste que le réchauffement climatique allait avoir des conséquences sur la planète et qu'il devait être présenté dans le Congrès. Et donc, ils ont essayé d'altérer le contenu scientifique. Et puis, n'y arrivant pas, ils ont essayé d'empêcher ce rapport d'être présenté. Je trouve ça beaucoup plus inquiétant que ma petite boutade sur l'arbre qui se meurt, même si symboliquement, on rejoint la même chose.
Alors, vous aviez un coup de cœur ?
Oui, un joli coup de cœur, parce qu'on parle souvent de l'accessibilité des personnes en situation de handicap, de leur position dans la société, de comment l'améliorer. Puis il n'y a pas grand-chose qui est fait. Puis là, il s'est passé quelque chose d'assez symbolique, mais de très porteur d'espoir. C'est que Alice Trocker, qui est une jeune actrice, chanteuse, qui fait partie d'un spectacle à Broadway et qui est en fauteuil roulant, a été décorée d'un Tony Award, qui est l'équivalent des Molières de Broadway. Et elle a dédié sa victoire à tous ceux, toutes celles qui rêvaient de se voir enfin représentée dans la société, qui voulait avoir une petite existence quelque part. Et elle a terminé son discours en disant « We did it ». Moi, ça m'a mis les larmes aux yeux. J'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ça très fort. Elle le mérite largement, étant donné sa prouesse. Et oui, je pense qu'elle a raison de dire que c'est un message très fort pour beaucoup d'enfants qui pensent, enfin, à qui on dit, dès qu'ils sont tout petits, qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des rêves, les rêves des valides.
Mais c'est très, très beau message, effectivement, et on insiste sur le fait que on parle beau, on parle quand même relativement peu du handicap et que les stations de métro restent dans beaucoup de villes inaccessibles aux fauteuils. Et je voyais aussi sur le débat, alors je fais un aparté, c'est un peu obsessionnel, sur les trottinettes, on ne pense pas aux personnes en fauteuil. C'est Dominique Farrugia qui sur Twitter, a signalé on pense aux poussettes et tout, penser aux gens en fauteuil qui se retrouvent face à ces immondes trottinettes amassées au milieu des trottoirs. Pensez-y. Moi, je suis pour l'abolition de la trottinette.
Moi, je partage, vraiment.
Je pense qu'il faut réglementer tout cela, c'est une évidence. Madrid, Barcelone, on l'a déjà dit, l'ont déjà fait depuis des mois et des mois, si ce n'est des années. Après ça, je le redis, on a eu la même chose sur les rollers, il y a 15 ou 20 ans, 10 ou 15 ans, où tout d'un coup, les rollers, il y en avait partout. Ça allait. Et si on réglemente, on doit réussir à faire que les transports doux, et c'est un transport doux, la trottinette, soit accessible le partage de la voirie, et je le répète souvent, le partage de la voirie par rapport aux enfants et par rapport aux personnes âgées, eh bien c'est elles qui sont prioritaires, notamment par rapport aux trottinettes.
Oui, ça c'est la théorie, la pratique, et heureusement que vous avez parlé parce que j'allais spontanément dire une grossièreté, quand des abrutis vous dépassent à 50 km/h sur une trottinette, j'appelle pas ça un transport doux parce qu'ils débrident les trottinettes, aujourd'hui ils n'ont pas de respect pour les piétons, pour les gens qui se déplacent à pied, Christian.
Je peux juste dire un mot, ce qui me choque également, c'est quand je vois des pères de famille avec un petit enfant sur une même trottinette.
Pas seulement un père de famille, il y a beaucoup qui sont sur la trottinette.
Peu importe, mais avec un petit enfant sur une trottinette.
Le risque, c'est qu'on va
brûler les feux. Brûler les feux. Voilà. Donc ça, c'est
quoi, vous êtes pour le permis pour les trottinettes ?
Non, parce que maintenant, il y a des gens qui envisagent d'instituer un permis de trottinette.
Mais ça dit beaucoup de notre rapport à la ville, dans les grandes villes surtout, parce que la trottinette, c'est un problème dans les grandes métropoles, mais ça ne l'est pas partout. Et en fait, il n'y a pas que la trottinette qui est un problème. La voiture est un problème, le camion est un problème, le vélo est un problème. En fait, tout est un problème à partir du moment où l'obsession d'aller plus vite est la seule chose qui guide l'ensemble des personnes. Donc chaque nouveau transport rajouté, particulièrement s'il empiète sur l'espace piéton, devient un danger. Et c'est plutôt tout ça qu'il faudrait arriver à mettre en œuvre.
Surtout se déplacer. Pas encore.
Vous devriez faire un tour dans certains quartiers, parce qu'entre les voitures qui se garent sur les trottoirs, les scooters qui roulent sur les trottoirs.
Les voitures ne roulent pas sur les trottoirs.
Les scooters, le coup de gueule de Jean-Luc
Benhamias. J'y ai pensé, c'est à la fois un coup de gueule, mais je vais le faire en coup de cœur. C'est un coup de cœur par rapport aux aides-soignantes et aux infirmières, notamment aux urgences, mais notamment dans les hôpitaux. Voilà, et je trouve que les choses qui ont été dites par rapport à cela sont des choses injustes, par rapport au fait que, tout d'un coup, certaines se mettaient en arrêt maladie. Il y a crise réelle dans hôpitaux, il y a crise réelle aux urgences, et les infirmières et les aides-soignantes, je mets le féminin exprès, tout le monde voit bien pourquoi, même s'il y a des hommes aussi qui font ces métiers-là, mais enfin, c'est quand même très majoritairement féminin. On est tous passés, heureusement ou malheureusement, à l'hôpital, ça m'est arrivé aussi. Moi, je trouve que ces gens-là sont des gens qui font un travail formidable et qu'on n'a pas le droit d'ignorer leur souffrance réelle telle qu'elle existe aujourd'hui. Car ici, tu es allé aux urgences une fois, et on est allé souvent plusieurs fois, pour voir comment c'est une... C'est panique générale, c'est fatigue générale, c'est angoissant et angoissant.
Une fois qu'on a dit ça...
Oui, très bien. Alors, on
dure depuis des
décennies. Voilà, j'allais le dire.
Les hôpitaux ne se sont jamais remis des 35 heures. C'est l'application des 35 heures.
Je l'avais déjà dit, excusez-moi, pendant les primaires de la gauche, mais et de l'absence de dispensaires à côté qui font qu'on ne va pas aux urgences pour n'importe quoi.
Les urgentistes réfutent totalement cet argument-là. Parce que quand vous allez aux urgences, dans la majorité des cas, c'est que vous pensez que vous avez quelque chose de grave. Alors après, il y a une désorganisation, mais vous les avez entendus, les médecins, dire on refuse la bobologie. De dire c'est de la bobologie. Non. Quand on y va, c'est qu'on pense qu'on a quelque chose de grave. On y va avec un enfant qui a 42 fièvres. Peut-être que c'est pas grave, mais le parent ressent que c'est quelque chose de grave. Mais c'est pas le problème. C'est pas de rejeter sur le patient la question.
Je rejette rien sur le patient. Je rejette sur l'organisation qui fait que les urgences, ça s'appelle les urgences, et que tout n'est pas urgence. Et que pour un certain nombre de familles, notamment les familles...
Mais vous êtes qui pour savoir que c'est une urgence ou pas ?
Parce que globalement, j'étais suffisamment longtemps, pour des raisons X, Y, Z, par rapport à ce que j'ai subi dans ma propre petite vie. Et d'être allé aux urgences, parce que c'est comme ça, de voir quand même que c'est pas de la bobologie, je suis d'accord, mais j'écoute beaucoup plus que les médecins, j'écoute beaucoup plus les aides-soignantes et les infirmières par rapport à ceux qui arrivent. Et je pense qu'on pourrait structurer l'accueil de manière... Bien sûr qu'il y a un problème de moyens, mais structurer l'accueil de manière différente.
Non, mais exactement.
Mais ça fait 20 ans que ça dure, même 30 ans.
Mais je ne dis pas ça pour aujourd'hui.
Plus, le nombre d'heures supplémentaires pour le personnel qui ne peuvent pas être payées.
Mais les moyens, un thermomètre pour 80 patients. Je veux dire, ce sont des choses qu'on ne peut pas entendre. Moi-même, un jour, mon petit garçon, et c'était il y a 15 ans, je l'amène aux urgences pour un bras cassé dans un accident assez grave. Et on me dit, il n'y a pas d'attelle pour le bras, vous allez attendre 4-5 heures, mais il y a une attelle pour la jambe, on va vous la donner pour son bras. Donc, ce n'est pas nouveau. Non, et il y a vraiment un problème de moyens pour moi.
C'est pas nouveau, mais il y a une augmentation des inégalités fait qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas d'autre recours que d'aller aux urgences parce qu'il n'existe pas d'autre système. Et en fait, il y a des régions où c'est très très tendu.
On a fait
D'autres où ça l'est moins. Et pire que ça, les gens qui ont plus de moyens connaissent les moyens d'avoir accès à d'autres médecins. Vous voyez, par exemple, en Île-de-France, on a les maisons de médecine qui sont ouvertes jusque très tard le soir, voire même toute la nuit, qui sont accessibles à tout le monde. Mais toute la population n'est pas au courant de ces choses-là. Je ne sais même pas si autour de cette table, on sait où est la plus proche de chez nous. Et en fait, il y a une double inégalité, à la fois territoriale, à la fois suivant le niveau d'information, qui crée une surpopulation dans les urgences. Et ajouté à ça, il y a effectivement 30 ans de non-traitement des urgences. Et aujourd'hui, moi, quand j'entends dire qu'on va mettre 1 à 2 milliards sur la table et que c'est fantastique, alors qu'on en a trouvé 10 il n'y a pas longtemps et que chaque année, on en trouve 11 pour les énergies fossiles, je me dis que vraiment, ce n'est pas une priorité, la santé.
Juste dire une chose, ce matin, il y avait Lamine Garbi, qui est le président de la Fédération d'hospitalisation privée, qui était sur Sud Radio et qui lance un appel pour dire que le privé peut désengorger les urgences, que ça ne coûte pas plus cher. Il dit que la prise en charge est la même qu'à l'hôpital, en sachant que les dépassements d'honoraires sont interdits par la loi au service des urgences.
Et ça, ce
sont des choses qu'on ne sait pas.
Exactement.
Donc, aller aux urgences dans des cliniques privées, ça ne vous coûtera pas plus cher. Mais c'est là, il y a de la com' à faire.
Oui. Enfin, mon fils était allé aux urgences ce week-end dans une clinique privée. Il a été accueilli. Mais au bout de 3 heures, au bout de 4 heures, il avait pas c'était pas énorme. Enfin, quand même, il a besoin d'être soigné rapidement. Au bout de 4 heures, il est parti. Hein, parce que c'était dans le privé. Bien sûr que le privé est accessible, je pense qu'il y a urgence aussi dans le privé. Hein.
Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de la une de Charlie Hebdo. Est-ce que vous êtes choqué ou pas par cette une ? À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous totalement. Sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Alors cette une de Charlie Hebdo qui fait beaucoup parler, qui fait débattre. J'avoue que j'ai hésité avant de faire le débat parce que on va la faire. C'est une couverture donc la une de cette semaine, c'est un sexe de femme, c'est un dessin avec un ballon de foot au milieu, Coupe du monde féminine. On va en bouffer pendant un mois.
Donc Chris, le rédacteur en chef, y est allé de son petit édito également, mettant un tacle à l'industrie du foot. Le foot féminin devra-t-il aussi participer à l'abrutissement des foules pour être pris au sérieux et considéré comme l'égal du foot masculin? Donc c'est un parti pris, c'est un journal satirique, je rappelle. Patricia, je vais commencer avec vous, puisque vous avez tweeté que vous n'aimiez pas cette une, que vous la trouviez vulgaire.
Je la trouve vulgaire, sexiste, idiote. Je trouve que ces championnes méritent un peu plus de respect, sont des femmes formidables.
Mais c'est le foot féminin qui le tacle.
Oui, mais pourquoi on ne fait pas la même chose?
Ils le font.
Alors, la couverture aurait été divisée en deux, avec d'un côté le tacle sur les femmes et de l'autre côté un sexe masculin avec un ballon au bout. J'aurais trouvé ça très drôle.
Alors, il y a des gens qui ont tweeté d'autres unes de Charlie Hebdo où il y a des hommes à poil avec des sexes mous qui pendent. Les femmes reprennent les choses en main. Elles ont des couilles de mecs à pleine main. Je dis les mots. C'est du dessin satirique. Et moi, ce qui m'inquiète dans les réactions que j'entends ce matin, c'est une sorte de régression quand même de la liberté d'expression. On parle d'humour. Je sais que vous êtes nombreux à dire oui, mais Riolo et Roten, ils ne sont pas humoristes, ils sont commentateurs de foot. Donc, ce n'est pas de l'humour. Donc, moi, je mets les choses de façon très différente.
Valérie, pour répondre à ce que vous venez de dire, la liberté d'expression, c'est aussi de ne pas aimer et de le dire.
Absolument. Sauf que quand je vois ce matin sur CNews qu'on met cette une avec un censuré en énorme, les mots ont un sens. Et quand j'entends Jean-Louis Burga dire « les dessins peuvent faire aussi mal que des fusils », moi j'ai perdu même des amis à Charlie Hebdo et je suis
moi
extrêmement
aussi
choquée par cette phrase. Ce sont des dessins, il y a des gens qui meurent pour des dessins. Donc voilà, je suis assez véhémente sur le sujet. Christian ?
Moi je veux dire, on est tous Charlie, on est tous pour la liberté d'expression, mais c'est vrai que moi je ne suis pas choqué par cette une, dans la mesure où elle correspond totalement à l'ADN du titre. Mais on la comprend, mais ce qui ne veut pas dire qu'on l'apprécie.
On peut la trouver moche, on peut la trouver vulgaire. Mais là, on est sur une bronca des réseaux sociaux. On voit ce qui s'est passé, pour rappel, au New York Times, qui a publié un dessin qui a fait beaucoup réagir, encore une fois, avec Trump, qui tenait en laisse Netanyahou, qui est un dessin jugé antisémite. Le New York Times a décidé d'arrêter le dessin de presse politique. Donc,
c'est de l'autocensure ridicule.
Oui, mais Sandra, cette une vous choque ?
En fait, toutes les unes de Charlie sont assez vulgaires comme ça, donc je ne suis pas étonnée. Je pense qu'elle choque parce qu'on est plus habitué à voir des sexes masculins pendouillants en une, ou des seins de femmes plus ou moins pendouillants en une de Charlie que des sexes féminins. Et encore, je les trouve relativement soft parce qu'on ne voit même pas de clitoris dans l'histoire, on voit juste un ballon. Entre
en
deux jambes.
Vous l'avez bien regardé.
Donc, oui, je l'ai bien regardé.
Ah bon,
et quand bien même. Mais je pense que c'est juste la non-habitude de voir des sexes féminins caricaturés en gros plan qui fait que ça fait une bronca. En fait, elle est aussi vulgaire que toutes les autres couvertures de Charlie. Moi, je défends la liberté d'expression, mais je ne m'impose pas forcément de lire le truc, c'est tout.
On est d'accord.
Il n'y a pas de surprise avec Charlie. Hein. Mais je vais... je vais dire autre chose sur la une de Charlie parce que je l'ai regardé. Il y a juste en haut de la une un hommage à Pierre Fournier. Et Pierre Fournier est un des personnes que je respecte beaucoup, qui est décédé très tôt en
1973.
C'est un historique de l'écologie politique qui avait lancé le titre dans Charlie Hebdo et dans Harakiri à l'époque qui s'appelait La gueule ouverte. Et comme j'ai été le dernier rédacteur en chef en date, entre 81 et 81 de La gueule ouverte, voilà. Et il y a ça, donc il n'y a pas que cette une provocatrice à la Charlie Hebdo qui ne surprend personne. J'en ai
c'est un non-événement, à mon avis.
Voilà. Donc je mets en avant le reste de la une avec Pierre Fournier, voilà, à lire.
Voilà. Quelqu'un dit ce qui me choque, c'est pas la une, c'est c'est pas ça que je voulais vous lire. C'est juste si Sophie dit c'est juste un dessin. Après ça, vous irez allumer des bougies en mémoire des dessinateurs tués. Voilà, donc je trouve que c'est pas totalement faux comme réflexion. Bon, on clôt le débat. Ah, Abdelak est en ligne et voulait réagir. 0826 300 300. Abdelak, bonjour.
Vous m'avez fait peur, vous allez clore sans m'écouter. Bon.
Non, c'est pas possible.
Une voix landaise au milieu des coincés du cul, là.
Moi, je suis coincé du cul, je vous remercie.
Non, pas vous, non, mais les propos, c'est de l'interprétation. Mais c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, c'est génial. On a des filles qui jouent super bien au ballon, je suis un footballeur, j'entraîne au foot aussi. Mais c'est extraordinaire. Les filles, elles ont fait 9,8 millions, je crois, d'audimat.
Ouais, 11 millions avec Canal, etc.
Et tant mieux, il y en aura encore peut-être plus ce soir et je ne louperai pas le match de ce soir, je le regarde davantage que le match de Club d'Angleterre. Et là, jouer avec ça, dire qu'elles sont extraordinaires, c'est bandant parce que c'est ça le truc. que c'est bandant avoir des filles comme ça qui jouent aussi bien au ballon. C'est un football qu'on peut expliquer aux enfants. On l'explique plus facilement que des matchs fermés entre garçons. Et faire jouer comme ça avec un sexe féminin pour dire que c'est hyper bandant ce qu'on vit avec un football extraordinaire chez les femmes,
c'est pas exactement le message de Charlie Hebdo, c'est un peu l'inverse, quoi. C'était un peu l'inverse de leur message. Mais
en tout cas, moi je l'entends comme ça, et puis que vive Charlie Hebdo, c'est extraordinaire d'interpréter comme on a envie. C'est un journal satirique. Ouais. C'est un journal satirique, il faut se le rappeler 100 fois. Voilà. Il y a les coincés, il faut qu'ils arrêtent. C'est pas un magazine Elle ou Télérama. Ouais. C'est un journal satirique et ils font super bien leur boulot et qu'ils continuent aussi longtemps qu'ils le puissent.
Bon, merci beaucoup Abdelhak. Effectivement, c'est dommage. Si on ne vous avait pas, ça aurait été dommage de ne pas vous entendre. Allez, on se retrouve dans un instant. On va commenter l'actualité. On va parler de notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, des personnalités politiques des Français. Et voilà Nicolas Sarkozy qui fait une très belle remontada. À tout de suite.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff.
La Corse, l'affaire se corse. Chef-lieu Ajaccio of Corse. Les relations corse, politique, voyous, intérêts croisés, destin tragique. Un livre document choc du journaliste Christian Châtillon.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match qui vient donc, ce sondage, nous apprendre que donc Nicolas Hulot reste la personnalité préférée des Français. 71% d'opinions favorables. On se demande un peu pourquoi
pourquoi tu dis ça?
Bah, il a fait quoi? Enfin, franchement,
il a
17 voitures, je sais pas.
Non, mais pourquoi? Pourquoi Nicolas Hulot reste la personnalité préférée des Français? Et Nicolas Sarkozy arrive, lui, juste derrière, 47% des Français. Voilà, c'est les Nicolas. On n'est pas du tout café du commerce. Est-ce que c'est l'homme qui manque à la droite ce matin? Donc Christian Estrosi a proposé de faire appel à Nicolas Sarkozy jusqu'au municipal, qu'il reprenne la tête du parti. Alors déjà, cette remontada, vous la comprenez comment, les uns et les autres, Patricia?
D'abord, en général, quand les présidents ne sont plus présidents... Oui. On les aime. Ensuite, comme
c'est
la nature...
Enfin, il n'y a pas Hollande, c'est ce que j'allais dire. Hein.
Hollande n'a pas fait de remontada. Autant pour moi. Ensuite, la nature a horreur du vide. Et les Républicains ont un vrai problème de leadership, qui n'est pas résolu d'ailleurs depuis Nicolas Sarkozy.
Depuis 2012.
Et en fait, Nicolas Sarkozy a été président de la République. Donc il n'y a pas un leader des Républicains qui puisse lui arriver à la cheville. Maintenant, la question est de savoir si Nicolas Sarkozy a envie de revenir, de remettre les mains dans le cambouis, ce que je ne pense pas. La primaire voulue par tous les gens des Républicains à l'époque a été un piège pour lui qu'il a accepté parce qu'il n'avait pas le choix. Mais ce qu'il a envie, je n'en suis pas persuadée.
Non. Christian, 2009.
Non, effectivement, depuis 2012, la droite qui l'a fait battre quand même. Hein, elle est quand même orpheline
d'un leader et d'un chef de Sarkozy.
La droite,
exactement, exactement. Après, il a quelques échéances judiciaires et tant qu'elles ne seront pas passées et tant qu'elles ne seront pas soldées, je crois qu'il ne peut pas revenir. Ce qui ne l'empêche pas, je pense, d'avoir une influence assez considérable pour essayer de voir quel espace politique la droite peut occuper, parce que c'est ça la question. Et je crois c'est compliqué parce que je crois qu'il est pas très éloigné aussi du président Macron, donc ça devient compliqué.
Oui, ils sont même assez proches. Comment est-ce qu'on appelle ça, les visiteurs du soir. C'est plus par SMS.
Ils ont des échanges parfois.
On sent aucune animosité, va-t-on dire.
Et puis le président actuel le consulte à chaque grande décision. Bon, si ça, c'est pas un visiteur du soir, je sais pas. Non, mais après, il y a dans ce retour de l'image de Sarkozy, enfin, dans ce classement, en tout cas, il y a deux choses. Il y a déjà le retour vers les figures les plus connues, parce qu'en fait, vous pouvez prendre un sondage de notoriété, vous aurez à peu près le même ordre de personnes. Vous dites pourquoi Nicolas Hulot? Parce que ça fait 30 ans qu'il truste le paysage médiatique. Et donc, tout le monde le connaît à travers toutes les générations, pour des raisons différentes. Les jeunes le connaissent pour son activisme environnemental. Les un peu plus vieux comme nous, parce qu'ils ont regardé ces émissions. Et donc, et entre les deux, il y a eu toutes les caricatures des guignols, des choses comme ça qui restent.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on le qualifie de personnalité politique.
Oui. Et pourquoi ?
Il a été ministre quand même, excusez-moi du peu. Il a été ministre et il a marqué ce gouvernement en étant le seul qui parte avec pertes et fracas et en expliquant pourquoi. C'est pas rien non plus. Il a fait un acte, son plus gros acte politique, c'est quand même son départ de ce gouvernement. Et il y a une deuxième chose concernant la droite et
Nicolas Sarkozy. Bonjour l'acte politique.
Est-ce que c'était pas pour des raisons plus personnelles que politiques son départ ?
Ah ben ça, je sais pas, mais...
Je crois pas.
En tout cas, le séisme qui crée à ce moment-là est un vrai séisme et enclenche
reste
pas mal
en
de
place,
choses.
Ce séisme, oui, car qui reste ce qu'il en dit et ce qu'il a redéfini dans un interview au Point il y a à peu près 15 jours, où il redéfinit ce qui pourrait être une politique publique par rapport à la transition écologique, par rapport à la transition énergétique, est extrêmement précis. Ce qui l'a fait aboutir à démissionner, c'est qu'il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas le faire. Et je l'avais dit à l'époque et je le redis aujourd'hui, être ministre de l'Environnement, après ce que vient de dire, ce qu'a dit depuis plusieurs semaines et encore il y a 15 jours Nicolas Hulot, est extrêmement délicat, extrêmement difficile. Soit il y a urgence écologique réelle, et s'il y a urgence écologique réelle, il y a des changements de cap absolument nécessaires, ça se discute, je pense même qu'aujourd'hui, même Édouard Philippe, même ce gouvernement, même cette présidence en est tout à fait conscient. On verra ce qu'ils annoncent par rapport à ça.
Ce sera
à la hauteur ou pas.
C'est toujours dans les discours.
Oui, oui, oui. On verra si c'est à la hauteur. Je pèse mes mots par rapport à cela. Mais c'est tout à fait. Voilà. Moi, ça, je ne suis pas étonné du tout que Nicolas Sarkozy réapparaisse aussi. Car dans le stade de décomposition politique très avancé dans lequel nous sommes, il y a quelques. Il semblerait que pour la droite, et pour c'est ceux-là qui disent ça par rapport à Nicolas Sarkozy, il y a besoin de quelques valeurs sûres. Ils peuvent penser que c'est une valeur sûre. Moi, j'en pense pas moins, mais ils peuvent le penser.
Mmh. Il y a urgence pour les Républicains de se trouver un leader.
Mmh. Et puis, Nicolas Sarkozy, c'est aussi la nostalgie de la droite unie, forte, Chirac n'est plus là.
Absolument.
La droite rassemblée. Absolument. Et aujourd'hui, vu qu'elle a toujours été rassemblée de façon un peu artificielle et qu'aujourd'hui, les coups de butoir font voler en éclat l'artificialité de l'Union, il y a ce côté nostalgique. On va reprendre le mec qui avait fait tenir un peu tout ça debout.
Oui, qui a été surtout élu président de la République au nom d'un parti qui aujourd'hui est en décrépitude.
On a Jean-Noël en ligne avec nous. Bonjour Jean-Noël, vous êtes à l'antenne sur Sud Radio, on vous écoute.
Bonjour Valérie, bonjour à tous vos auditeurs et vos invités présents avec vous. Pour Sarkozy, le retour de Sarkozy peut se faire, oui. Il y a une condition quand même par rapport à ce qu'il a, ce qui lui colle comme un sparadrap par rapport à ses affaires ou ses pseudo-affaires, tant qu'on n'est pas jugé, on est indépendant, on est présumé innocent, pardon. Ça peut se faire, mais aujourd'hui les LR sont en mal de leadership parce que vos interlocuteurs ont dit, j'ai écouté, ils ont dit des vérités là-dessus. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir des leaders, un leader qui arrive ou une femme ou homme, peu importe, mais surtout bien s'entourer et avoir des gens qui ont des convictions. Des convictions et pas des personnes comme des Xavier Bertrand ou des Pécresse à des vraies girouettes. C'est comme Edgar Ford disait, c'est le vent qui les fait tourner et pas l'inverse. Et des convictions, même dans les viscères, qu'aujourd'hui ils n'ont pas par rapport à ce pays qui est malheureusement à ce pays. Et si Sarkozy revient, moi personnellement, je dis oui, mais à condition de très très bien s'entourer et de ne pas faire certaines erreurs qu'il a fait
par le passé.
Ouais. Et regarder toutes ces personnes qui ont vraiment craché dans la soupe, excusez-moi du mot, après cette défaite en 2012, ne pas oublier. Alors après, on critique beaucoup qu'une comme Darlene Morano, mais au moins c'est une des seules qui n'a pas critiqué, qui n'a pas craché dans la soupe. Ouais. Et là, peut-être que Sarkozy, s'il revient, mais j'ai un peu peur que s'il revient avec ce qui est encore en cours, ça lui fasse encore du mal. Ça lui fasse du mal parce que la machine médiatique est très très forte et surtout par une certaine presse bien intentionnée et bien orientée.
Ouais. Voilà, merci beaucoup Jean-Noël de nous avoir appelé. Oui, Nicolas Sarkozy 47%, 71% pour Nicolas Hulot, arrive derrière Jean-Yves Le Drian 46%, Ségolène Royal, Martine Aubry, Édouard Philippe qui est assez haut et Xavier Bertrand 43-44%. Tout ça est assez dans un mouchoir de proche.
Yannick
et Yannick Jadot, j'allais le dire, Sandra, n'ayez pas peur, qui a fait un bond effectivement,
qui est le grand vainqueur des Européennes.
Qui gagne 24 points en un un mois qui passe de la 36e place à la 9e place dans le tableau de bord.
C'est ce que je vous dis, c'est vraiment un sondage de notoriété en fait. Oui, oui. On a vraiment les personnes les plus connues des espaces de droite, de gauche et de l'écologie. C'est assez logique.
Plus que ça, c'est pas seulement un sondage de notoriété. Je pense que c'est un sondage de vraie popularité, mais au sens affectif du terme. Et je pense que si Yannick Jadot a grimpé d'un coup comme ça, c'est parce qu'il a fait un score absolument incroyable. Pour moi, c'est la vraie surprise des Européennes. Quant à Nicolas Sarkozy, c'est une valeur sûre. Et pourquoi il est en tête et il a cette cote de popularité ? Parce qu'il rassure par rapport à un moment de vide,
de confusion,
dans
de
un
confusion
parti
totale,
et un problème de bipolarisation de la vie politique. Je pense même au PS parfois. Qui n'est pas ma couleur politique. Et je me dis, on ne peut pas faire disparaître des partis qui ont fait l'histoire de France.
Mais si, il y en a qui disparaissent. Oui, la SFIO a disparu, le Parti radical a disparu.
La SFIO est devenue...
Non, mais ça
s'est transformé, Christian. Mais là, on fait disparaître quand même...
Et la République en marche disparaîtra.
L'histoire de la vie politique française. Je pense qu'il y a une vraie pensée de droite. Il y a une vraie pensée de droite qui peut fonctionner au travers de LR, qui est, je rappelle, l'émanation du RPR, puis de l'UMP. C'était quoi ? C'était une droite sociale, libérale, même si ce mot,
on
ne l'aime pas.
C'est sûr que le tournant frontiste de Wauquiez n'a pas aidé à faire remonter la droite. Et que, quelque part, Sarkozy, il est un peu plus modéré là-dessus, même si ce n'est pas non plus le plus gaulliste dans l'affaire.
Michael nous dit, avant de penser à la personnalité qui deviendra le chef des Républicains, pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas à un projet pour le parti ? Vous avez raison, Michael.
Moi, ce n'est pas ma priorité. Vous avez de réfléchir à un projet pour ce parti.
Non, mais on peut se poser la question. Effectivement, on est en train de dire qui, sauf que la question est
voilà, revenir aux valeurs fondamentales de
quelle est la place aujourd'hui
le RPR. Je rappelle quand même, à l'origine des LR, le RPR est un parti fondé par Jacques Chirac qui était quoi ? Il y avait de l'autre côté Valéry Giscard d'Estaing, lequel Valéry Giscard d'Estaing incarnait une droite monarchique très à droite, et il a créé, Jacques Chirac, cette droite populaire à laquelle beaucoup d'entre nous ont adhéré à l'époque en rébellion contre la droite de Valéry Giscard d'Estaing.
Sur les questions sociétales, Valéry Giscard d'Estaing était moins à droite que Chirac. Hein.
Oui.
Il était plus libéral. Quoi. Le pire et dans le meilleur. Excusez-moi.
Tu as raison.
Gourdan, qui est un de nos auditeurs fidèles, lui fait revenir Nicolas Sarkozy, c'est le remonte dada de tous ceux qui espèrent qu'il les prendra en croupe. Voilà, il y a toujours beaucoup d'humour. Frédéric est en ligne avec nous. Bonjour Frédéric.
Merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Alors écoutez, moi vous savez, je vais vous dire honnêtement, quand j'entends le mot de Sarkozy, j'ai des boutons. Ah. Hein, franchement, c'est vraiment quelqu'un de néfaste, c'est quelqu'un qui a trahi, qui a bricolé le référendum de 2005 sur le traité de Lisbonne. C'est quelqu'un qui a une politique extérieure terrible en déstabilisant le Kadhafi, la Libye. On en voit les résultats. Quant à la droite française, ben vous savez, Valérie, je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas si elle a existé un jour. Bon, il y a une, vous savez, c'est la France qui a peur. Donc elle navigue chez Macron. Ben elle a pas pour trouver un petit peu d'abri. Mais bon, elle n'existe pas, cette droite. Faut arrêter avec ça, quoi. Bon, c'était. Sarkozy, franchement, ça me fait peur. Parce que si on en arrive à aller rechercher les fonds de tiroir comme ça, croyez-moi,
monsieur,
c'est grave.
Alors, Patricia,
monsieur, je puis vous répondre, d'abord, ce n'est pas les fonds de tiroir. On parle ici d'un ancien président de la République, accessoirement. Deuxièmement, je vous rappelle quand même le principe de présomption d'innocence dans les affaires que vous évoquez. Et donc, je pense sincèrement, et que vous n'appréciez pas Nicolas Sarkozy, c'est tout à fait votre droit et votre liberté. Maintenant, reconnaissez quand même qu'il y a un problème de leadership à droite et qu'il a incarné ce leadership de la droite à un moment donné de l'histoire de France.
Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont des déçus de Sarkozy sur notre fil Facebook. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous pour parler d'Édouard Philippe et de l'acte 2 du quinquennat. Tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, et nous parlions de Nicolas Sarkozy, très haut dans le sondage IFOP Fiduciel. Sud Radio, Paris Match arrive en deuxième position des personnalités préférées des politiques, des personnalités politiques préférées des Français. Et on a Pierre qui voulait réagir sur le sujet. Bonjour Pierre.
Bonjour. Oui, je voulais juste dire ceci, les partis politiques traditionnels, pour moi, font partie du passé. Et comme nous sommes quand même arrivés dans l'ère du dégagisme, je crois que demain, c'est la créativité qui va intéresser les Français. Et donc, si demain, nous trouvons un homme politique très créatif, voire ingénieux, voire à la limite, pour plus de liberté, il sera le premier sélectionné. Je crois que, pour faire la transition, puisque j'ai vu que le sujet, c'était Édouard Philippe, je crois que c'est un bon élève, il est studieux, mais je crois surtout qu'il manque quand même d'originalité et justement de modernisme. Et je pense que demain, si il veut être président de la République, puisque c'est peut-être son souhait, je pense qu'il va falloir qu'il fasse preuve un peu plus d'imagination.
Oui, donc, mais vous le voyez, vous, en Premier ministre, en président, pardon, il est déjà Premier
ministre. Alors, il y a une erreur qu'il peut faire. S'il reste 5 ans, comme l'a fait Fillon, il ne pourra jamais être président de la République.
Fillon a failli l'être, hein.
Oui, la preuve. Mais par contre, je crois que surtout, c'est ce que va faire M. Macron. Il va le pousser à rester pendant 5 ans, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il reste, alors qu'il aurait dû déjà démissionner depuis longtemps, parce qu'il sait que la seule personne qui pourrait éventuellement le succéder, ça serait justement Édouard Philippe. Mais l'erreur qu'il fait, c'est que comme c'est un bon élève, il répond à son maître, alors qu'il devrait justement s'en aller pour préparer la suite. Et parce que peut-être qu'Édouard Philippe pourrait être un bon successeur. Mais il faut qu'il fasse preuve un peu plus de créativité.
Oui, merci Pierre de votre appel. C'est vrai qu'il était sur un siège éjectable. Hein, on le disait partant après les élections européennes.
Ce sont les médias qui le disaient.
Oui, ce sont les médias qui le disaient, absolument. Mais il est là, et aujourd'hui, donc, discours de politique générale, il devient l'homme clé aujourd'hui deuxième parti.
On revient un peu à ce qu'était le président et le Premier ministre sous la Ve République, c'est-à-dire que le président préside, c'est ce qu'a fait Macron en donnant le 25 avril lors de la conférence de presse, donne les grandes directions, les grandes options, et le Premier ministre gouverne, c'est-à-dire qu'il va en principe il va donner mettre en pratique les options du président. Ce qui est difficile pour lui pour ce soir pour Édouard Philippe, c'est que de ne pas faire un discours qui soit un catalogue de mesures. Oui. Il faut qu'il donne du sens et du souffle. Et c'est là où il est attendu. Il est attendu.
Tu as raison.
Il y a un certain nombre de choses. Il y a la réforme de l'assurance chômage, il y a la réforme des retraites,
il y a la PMA,
la dépendance, la PMA, il y a le plan pauvreté, la réforme des institutions. Il y a beaucoup de choses quand même.
Alors moi je crois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la réforme des institutions va faire les frais. Il va faire les frais de l'engorgement de réformes à faire.
Et
donc cette année, on n'aura pas encore. La proportionnelle, je la vois mal, ils vont pas le faire.
Mais pourtant, c'est une grave erreur.
Mais je sais. Mais
la proportionnelle est une très bonne chose. Hein, c'est une grave erreur de ne pas la faire. C'est la seule chose qui pourrait faire mettre aux Français et aux Françaises de se dire on est enfin représentés.
Le danger de faire entrer des députés, de nombreux députés Front National, enfin.
Ça permettrait d'avoir des alliances politiques. Je sais bien que tout le monde pense à la 4ème République, mais nous ne sommes plus au moment de la 4ème République, d'autant plus que nous avons un système présidentiel tel qu'il est aujourd'hui, ça permettrait d'avoir des majorités équilibrées. Ce qui n'est pas le cas, chacun le sait, dans la représentation politique aujourd'hui.
Alors, pour revenir à Édouard Philippe, moi je dirais, et pour répondre à cet auditeur de Sud Radio, Édouard Philippe est, je dirais, presque résilient et résistant. Les médias avaient dit qu'il serait peut-être sanctionné après les européennes, ce n'est pas le cas, et il n'est plus aujourd'hui un collaborateur, mais il sera peut-être aussi, pour le président de la République, un paravent. C'est-à-dire qu'il va jouer, comme dans les institutions de la Ve République, un vrai rôle de Premier ministre. Maintenant, quant à l'avenir d'Édouard Philippe, je trouve que c'est prématuré d'en parler. Il y a deux possibilités. Qu'il soit le candidat La République En Marche pour la mairie de Paris, ce n'est pas encore exclu. Le souhaite-il Je n'en sais rien. Et d'autre part, claquer la porte façon Chirac en août pour aller à la présidence de la République, j'ai envie de dire, ça a déjà été fait. Donc il faudrait trouver quelque chose de plus original. Je ne suis pas persuadée qu'il pourrait y arriver dans 3 ans.
Ouais. Non, mais...
Je pense qu'Édouard Philippe, vous l'avez dit, le président de la République a donné les bases. Il va nous rappeler aujourd'hui. Mais il est bloqué sur une chose, c'est que, comme l'a dit Emmanuel Macron, le président de la République, tout ce qui a été fait depuis 2 ans, ça a peut-être été mal expliqué, mais c'est bien. Donc il faut continuer. Et ça, c'est un blocage. Parce que on parlait des grandes difficultés. Il y a la loi, évidemment, sur les changements constitutionnels, mais ça n'intéresse pas beaucoup les Français. Par contre, sur l'assurance chômage, sur la retraite, ou sur la dépendance, ça intéresse beaucoup les Français. Et les difficultés sont là. Sont là parce que les corps intermédiaires, on sait qu'ils sont en difficulté. C'est une réalité qu'on vit tous les jours. Mais qui sont obligatoires. Ouais. Et donc, il faut bien passer les négociations et faut bien discuter. Et le temps imparti est extrêmement court. Voilà,
c'est ça. C'est que le temps va être très limité et très court pour faire passer ça.
Quand on voit le cahier de charge, il est
énorme.
Très, très rempli. Et donc, si effectivement il doit y avoir négociation, discussion, résolution, et vote au Parlement avec le système des navettes, franchement,
on voit bien comment ils vont arriver à.
Le programme est très encombré, exactement.
À faire passer tout ça. La réforme des retraites en particulier, qui est quand même un très gros morceau.
C'est bon qu'on puisse dire.
L'assurance chômage. Et visiblement, le gouvernement continue. Et avance dans les réformes qui avaient été prévues. Donc ça, c'est aussi une question.
C'est là où il a retrouvé une dynamique. Et, enfin, il a retrouvé une dynamique.
Parce que les Gilets jaunes avaient quand même un petit peu bloqué tout ce qui se passait. Et là, visiblement, les Gilets jaunes n'existent plus pour eux.
Absolument. Le président de la République a reconnu plus ou moins une erreur humaine, entre guillemets. Maintenant, il y a un problème de communication politique pour cet après-midi. Édouard Philippe a déjà fait un discours de politique générale. Et aujourd'hui, il va falloir qu'il soit original et qu'il innove un peu.
Qu'il mette sa touche personnelle.
Exactement. Et s'il ne personnalise pas un petit peu ce discours, et s'il n'annonce pas des choses un peu originales, je pense que les Français qui peut-être seront devant leur poste ou qui écouteront, ils apprendront. Donc, c'est un exercice qui est doublement difficile pour le Premier ministre cet après-midi.
Ouais,
l'exercice paraît très difficile parce que tout a déjà été. Enfin, sérieusement, on a tous relu tout ça, encore ce matin, hier. On sait à peu près ce qui va être annoncé. Ça a été.
Qu'est-ce qui va être important
Soit il pète le feu et il y arrive, et soit il est dans la stricte.
Dans le catalogue, comme disait Christian.
Qu'on connaît.
Cela dit, on ne sait pas tout, puisque je crois qu'il déjeune avec le président aujourd'hui. Pour revoir les dernières touches sur le discours, donc c'est quand même.
Sur les annonces.
Donc le président est toujours là quand même. Bon. Enfin, et il est à la manœuvre.
C'est normal que ce soit validé par le chef de l'État.
Qu'il y ait une cohérence entre le président et le Premier ministre, c'est quand même pas trop mal.
Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Que son quinquennat, finalement, que cette deuxième partie, cette deuxième partie du quinquennat.
Avec la crise des Gilets jaunes, on a pu penser que le quinquennat était terminé.
Franchement,
ils s'en sortent, que ce soit Macron ou Édouard Philippe, ils s'en sortent très très bien de cette crise, y compris sur le plan électoral. Au mois de janvier, le score réalisé, on n'aurait jamais pensé que les Républicains en marche feraient ce score aux européennes. Voilà. Donc, ils pensent effectivement, et c'est là où c'est le danger, que la crise est passée, et que donc ils reprennent la dynamique de leur promesse électorale.
J'espère qu'ils sont assez intelligents pour penser qu'il y aura une petite trêve estivale, et octobre, ce sera la zone de tous les dangers.
Mais c'est tous les ans pareil.
A fortiori avec ce phénomène gilet jaune. Je veux dire, et peut-être demain les blouses blanches.
Oui.
On ne sait pas.
Non, c'est ce qu'il y a, ce sont des réformes à haut risque. Ça, c'est sûr. C'est des réformes à haut risque.
Avec une majorité à l'Assemblée nationale extrêmement forte, mais dans l'opinion publique, ça n'est pas une majorité.
Qui ne correspond pas à la réalité sociale et politique. Élections européennes,
certes, vous l'avez dit, est un résultat plutôt. En haut par rapport à ce qu'on pouvait attendre par rapport à la République en marche, mais ça ne fait quand même que 22%. Et 22%, c'est loin d'être.
0,9% de plus que le Rassemblement national.
Nous sommes d'accord, mais on est sur une composition, une décomposition politique où les choses sont très fragmentées.
Exactement.
Et cette fragmentation est extrêmement délicate à gérer, bien évidemment, car ça ne fait pas de majorité.
C'est fragile, c'est ce que vous voulez dire.
C'est ce que je veux dire, merci de me traduire. Allez,
il nous reste peu de temps, je vois beaucoup de réactions sur à propos de Nathalie Loiseau, notre nouvelle députée La République En Marche, qui a déclaré en off devant 10 journalistes que Manfred Weber était un ectoplasme, Jean Dartu un et Guy Verhofstadt, plein de frustration rentrée. Le off a été craqué, les journalistes ont raconté ce qu'elle avait dit, mais c'est pas très...
Oui, enfin, cette femme qui porte des jugements alors qu'elle n'a pas commencé son travail au Parlement européen, qui a fait une campagne désastreuse, et c'est pour ça que le Premier ministre est arrivé en renfort.
Et le Président.
Et le Président de la République, surtout. N'en parlons mais pas. Oui. Donc je pense qu'un peu d'humilité de la part de Mme Loiseau serait tout à fait...
Notamment par rapport à Guy Verhofstadt.
C'est pas terrible comme entrée en matière au Parlement, non.
Non.
Elle est la dernière à croire que les offres sont respectées.
Voilà.
C'est un manque de professionnalisme incroyable.
Voilà une erreur de casting du président de la République. Vraiment.
Oui. Oui. Allez, on va se quitter. Vous allez retrouver André Bercoff et nous, on va se retrouver demain à 10h pour d'autres infos. Merci à vous.